Je vais vous parler de deux frères que vous connaissez, deux frères dont la vie est étroitement liée, mais qui ont des relations assez difficiles entre eux. Vous savez d'expérience que souvent dans une fratrie, les relations ne sont pas toujours simples, qu'il peut y avoir des tensions, on le sait d'expérience. Et la Bible, ce livre magnifique qui parle de nos vies et qui nous parle de Dieu dans nos vies et qui nous parle en vérité, raconte souvent des histoires de fratrie et souvent ce sont des histoires aussi difficiles puisque ça nous dit notre vie et comment cheminer dans notre vie. Dès le début, Caïn qui tue son frère Abel. Et puis ensuite, on a les relations compliquées entre Isaac et Ismaël. Puis entre Jacob et Ésaü, puis entre Joseph et ses frères, et puis dans le Nouveau Testament, entre Marthe et Marie. Et puis Jésus raconte la parole du bol du fils prodigue, où le frère aîné en veut à son frère cadet. Enfin voilà, entre deux frères, ou entre un frère et une sœur, ou entre deux sœurs, c'est toujours difficile. Et alors je voudrais vous parler de deux frères qui sont parmi nous ce soir. Vous les connaissez, c'est les frères Terrieur. Il y a Alain et Alex. À l'intérieur et à l'extérieur. Vous connaissez ces deux frères parce que, en vous, leurs relations ne sont pas toujours très faciles. En nous, bien souvent, entre notre moi intérieur et puis notre extérieur, nous n'avons pas toujours une grande cohérence. Nous avons parfois de la difficulté à ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous aimerions vivre, et puis ce que effectivement nous faisons, nous disons, nous regrettons, eh bien souvent il y a une tension entre les deux. C'est une tension souvent difficile, parfois déchirante. Vous avez entendu le texte, l'extrait de l'apôtre Paul aux Romains qui dit cette déchirure qu'il a. Quand il dit ce que Christine nous a lu à l'instant, il est à ma portée de vouloir faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire, dit Paul. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne voudrais pas. Voilà, Paul, il y a 2000 ans, dit exactement ce déchirement que nous pouvons avoir, cet écart entre nos sentiments, nos pensées, notre foi, et puis voilà, nos gestes, nos actions, nos engagements. Alors bien sûr, vous me direz, c'est normal qu'il y ait une certaine distance entre les deux, parce qu'on vit en société, alors forcément il y a d'autres autour de nous, et il faut composer avec les autres, donc il y a forcément une part de sociabilité, de rôle à avoir, on ne peut pas être en transparence immédiate et totale avec tout le monde tout le temps, il faut aussi parfois faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait, même si on pense autrement, oui, en partie. Mais profondément, parfois, nous sentons qu'il y a quand même un écart qui nous fait mal, un déchirement. Alors parfois, il peut être de l'ordre de l'hypocrisie, parfois il peut être de l'ordre du regret, parfois il peut être de l'ordre aussi du découragement ou de la désespérance, comme l'apôtre Paul dans l'Écriture à l'instant. Et notre société ne nous aide pas tellement, je trouve, par rapport à ça, parce qu'elle nous donne une injonction paradoxale. Vous savez, une injonction paradoxale, c'est deux ordres, on pourrait dire, qui nous sont donnés, mais qui sont contradictoires, alors qui nous écartèlent. La première injonction que nous fait notre société, c'est qu'il faudrait qu'on soit en cohérence totale. Il faudrait que chacun de nous soit parfait. Il faudrait que ceux qui ont des responsabilités soient cohérents absolument tout le temps. Il faudrait qu'il y ait une transparence perpétuelle. Il faudrait que, en fait, on soit dans une espèce de pureté permanente. Et puis comme c'est difficile, alors on nous donne des conseils, on nous fait acheter des livres de développement personnel, il y a des gens qui coachent pour cela, enfin des stages, enfin on essaye de faire en sorte que nous puissions vivre en harmonie totale avec nous-mêmes. Et puis d'un autre côté, la même société fait de nous des chiffres, des consommateurs, des apparences, et nous incite beaucoup à faire attention à notre paraître. Il faut être tout le temps jeune, tout le temps beau, tout le temps compétent, peu importe ce que l'on pense, l'important c'est qu'on soit performant et qu'on soit dans les canons de ce que l'on veut nous vendre. Voilà, injonction paradoxale. Et au milieu de cette injonction, ben, nous ne sommes pas tellement aidés pour essayer de se dire comment notre intérieur et notre extérieur peuvent ensemble cohabiter et vivre. Je trouve un écho de cette situation complexe dans une belle prière que vous connaissez sans doute, mais j'ai tellement envie de vous la relire qu'on va la lire ensemble, de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, vous savez, c'est ce pasteur allemand qui était résistant à Hitler dès le début et qui a été exécuté en avril 1945, juste avant la fin de la guerre, par les nazis. Il avait été arrêté un an et demi avant, et quand il a été exécuté, il avait 39 ans. Et donc un an avant son exécution, il est en prison, et il écrit ceci, je vous le lis. « Qui suis-je ? Souvent, ils me disent que je sortirai de ma cellule détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. Qui suis-je ? Souvent, ils me disent que je parlerai avec mes gardiens, aussi libre, amical et clair que si j'allais donner des ordres. Qui suis-je ? De même, ils me disent que je supporterai les jours de malheur, impassible, souriant et fier, comme un homme accoutumé à vaincre. Suis-je vraiment celui qu'ils disent de moi ? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, nostalgique, malade, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une proximité humaine, tremblant de colère devant l'arbitraire et l'offense mesquine, agité par l'attente de grandes choses, craignant et démuni pour des amis dans un lointain sans fin, si là, si vide que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus, et prêt à l'abandon. Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ? Aujourd'hui cet homme et demain un autre ? Suis-je les deux à la fois ? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux ? Ou bien ce qui reste en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà acquise ? Qui suis-je ? Dérision que ce monologue, qui que je sois, tu me connais. Je suis à toi, ô Dieu. Voilà ce texte de Bonhoeffer, texte que je trouve bouleversant et déchirant parce que c'est celui d'un homme qui est dans une cellule et qui sait que très certainement la seule issue qu'il y aura c'est une exécution et qui dit son déchirement entre ce que l'on voit de lui et ce qu'il ressent au plus profond de lui. Texte en même temps très émouvant parce qu'il se termine dans cette phrase qui est une confession de foi pour dire « Mais finalement, ce qui compte le plus, c'est que en toi, Dieu, je sais que tout cela est uni, que tout cela dans ton regard est vrai parce que tu sais qui je suis et que je suis à toi. » C'est profond, cette confession de foi. Cette confession de foi qui, en fait, nous dit que Dieu est celui qui unit nos vies, notre extérieur, ce que nous montrons à voir, ce que nous faisons, et puis notre intérieur, ce que nous connaissons en vérité de nous-mêmes. Et ça résonne avec le texte de l'Évangile que Christine nous a lu dans l'Évangile de Luc, un extrait du Sermon sur la montagne. Quand Jésus, en fait, nous appelle à réconcilier les deux frères qui cohabitent en nous, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il nous dit qu'en fait, ils sont appelés à vivre ensemble et à vivre liés les uns avec les autres. Jésus emploie deux images pour le dire dans le passage. Première image, c'est le cœur et la bouche. Le cœur, dans l'Antiquité, c'est le siège des sentiments, comme pour nous dans notre culture, mais c'est aussi plus large, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de la pensée, c'est toute la personne en fait. Le cœur et puis la bouche qui exprime, nous dit Jésus, ce qui sort du cœur. Il y a un lien, nous dit Jésus, entre les deux, entre ce que nous avons en nous et ce que nous partageons en dehors de nous. Et l'autre image qu'il prend, c'est l'image de l'arbre et du fruit, même image, enfin même signification plutôt, puisqu'il nous dit, voilà, à chaque arbre correspond un fruit. Le fruit vient de l'arbre. Nous dit Jésus, pour illustrer ça, mais nous le savons bien, un bon arbre produit du bon fruit et un mauvais arbre du mauvais fruit, et on ne tire pas des figues d'un buisson d'épines, on ne cueille pas du raisin sur des ronces. Voilà, chaque arbre a un fruit. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre se développe dans un fruit qui est donné. Pour le dire en catégorie plus humaine, on dirait, ben voilà, c'est vraiment un appel que nous dit Jésus là, à unir ce que nous avons au fond de nous et ce que nous donnons à vivre et à voir, à unifier, on pourrait dire, notre être, l'intérieur et l'extérieur. À les prendre comme des frères qui sont peut-être fâchés ou tendus souvent, mais qui sont inséparables et qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas les dissocier, mais c'est important en même temps de ne pas les fusionner. Parce que dans ces deux frères, à l'intérieur et à l'extérieur, il y en a un qui est l'aîné. Il y en a un par qui ça commence. C'est, quand on entend bien ce que dit Jésus, c'est à l'intérieur. Ce que nous dit Jésus, c'est que quand la bouche exprime quelque chose, c'est ce qui vient du cœur. Quand un fruit tombe de l'arbre, c'est ce qui vient de l'arbre. Il y a précédence du cœur et de l'arbre sur la bouche et sur le fruit, nous dit Jésus. Avant de faire quelque chose, eh bien, nous sommes quelqu'un. Avant même, dans notre monde, de pouvoir poser une parole, un geste, une relation, nous avons été nous-mêmes accueillis par un désir, par l'amour de nos proches, par tout ce qu'on a pu nous donner qui nous a fait grandir. Nous sommes précédés par un amour, et c'est pareil au niveau de la foi. L'amour de Dieu nous précède. Et c'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons à notre tour l'aimer, et c'est en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, que nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout cela découle comme une logique. Pour le dire en termes plus théologiques, on dirait en premier, il y a la grâce de Dieu. Et tout ce que nous faisons, toutes nos œuvres, toutes nos actions, c'est après, ça découle de ça. Si on commence par ce que nous faisons, alors c'est bien fragile, parce que ça dépend de nous. Si nous commençons par ce que nous recevons et qu'il y a la grâce de Dieu en nous, alors c'est solide, parce que c'est la grâce de Dieu. En fait, ce que je vous dis là, que l'on retrouve dans ce que dit Jésus, dans cette image du cœur et de la bouche, de l'arbre et du fruit, que l'on retrouve chez l'apôtre Paul, qui après ce passage terrible où il dit « Je ne peux pas faire ce que je voudrais, je fais ce que je ne voudrais pas » et va développer ensuite la grâce de Dieu, c'est aussi ce qui est au cœur de la manière que nous avons de vivre la foi, c'est au cœur de la conviction des réformateurs. Martin Luther, qui est à l'origine de ce vaste mouvement qui fait que nous sommes ici ce soir dans ce temple, était un homme lui aussi déchiré et angoissé, parce qu'il se disait, j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, le mieux que je peux, devant Dieu ça ne tient pas. Et ça l'angoissait de manière très très forte. Au bout de ses efforts, il disait, je n'arrive pas à unifier ça suffisamment pour être serein et tranquille. Ça l'angoissait terriblement. Jusqu'au jour où il réalise que dans la Bible, et dans Paul, et dans l'Épître aux Romains en particulier, il nous est dit que ce qui précède, c'est la grâce de Dieu. C'est pas ce que je fais, c'est ce que Dieu me donne. Alors pour lui, c'est une nouvelle qui le libère absolument et qui va libérer tellement et tellement de gens que ça va donner un courant tellement grand dans le christianisme. L'amour de Dieu nous est donné avant que nous puissions nous-mêmes poser des gestes. Il y a un petit passage, je ne vous le lis pas là, mais vous pourrez relire la prédication sur Internet. Je vous le lis quand même. Ah bon, c'est pas très long, mais je ne voudrais pas vous assommer de lecture. C'est un passage de Luther où il parle de cette dimension, de cette liberté que nous recevons dans la foi, et il l'associe à l'image de l'arbre. Il écrit ça en 1523. Un bon arbre n'a besoin ni d'enseignement, ni de droit pour porter du bon fruit. Mais sa nature fait qu'il en porte, sans droit ni instruction, selon son espèce. Je tiendrai pour un être absolument fou, celui qui voudrait écrire un livre rempli de lois et de droits pour apprendre à un pommier à porter des pommes, et non pas des épines, étant donné que le pommier le fait par sa nature, beaucoup mieux que ce qu'on ne pourrait décrire ou le lui ordonner dans tous les livres. C'est ainsi que par l'esprit et la foi, tous les chrétiens ont en toute chose une telle nature qu'ils font le bien beaucoup plus qu'on ne pourrait le leur enseigner au moyen de toutes les lois, et qu'ils n'ont pas besoin pour eux-mêmes d'aucune loi ni d'aucun droit. Ce que dit Luther là, en fait, hein, c'est que si nous vivons pleinement de cette grâce reçue de Dieu, alors nous n'avons pas besoin de lois qui nous contraignent à faire le bien, parce que nous le faisons naturellement, par effusion, on pourrait dire, de la grâce de Dieu en nous. Alors Martin Luther n'est pas un naïf, c'est quelqu'un qui, comme nous, tout de suite se dit « oui, mais enfin c'est plus compliqué que ça, parce que même quand on est chrétien, on a quand même de la peine à vivre ça », et dit « oui, effectivement, nul homme n'est par nature chrétien et bon. On a besoin de recevoir l'Esprit Saint. C'est pas par naissance, c'est pas par nos gènes, c'est pas par notre bonté naturelle, c'est parce que Dieu vient nous donner sa grâce. » Alors pour le dire autrement, dans cette image du cœur et de la bouche, dans cette image de l'arbre et du fruit, il y a forcément un élément qui est important. C'est que pour que la bouche puisse exprimer ce que le cœur vit, eh bien, il faut qu'il y ait de la circulation, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait de la vie. Pour que le fruit tombe au bout de la branche, il faut qu'il y ait de la sève qui l'ait nourrie. Pour qu'entre notre être intérieur et notre être extérieur il y ait ce lien, il faut que circule la vie. Et cette vie, c'est l'Esprit Saint. C'est la grâce de Dieu. C'est ce Dieu qui vient donner sa respiration pour nous et en nous. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Galates quand il parle des fruits de l'Esprit. Vous savez, ce verset si magnifique où Paul dit « Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Autant de choses que nous aimerions vivre. Eh bien, Paul nous dit « Ce sont les fruits de l'Esprit. » C'est-à-dire, ce n'est pas l'aboutissement de vos efforts, c'est l'Esprit en vous. Ce qui veut dire, et je voudrais terminer par là, qu'entendre l'Évangile ce soir, à travers les deux textes que nous avons lus, ce n'est pas se mettre à faire des efforts incessants pour essayer de mieux faire, c'est essayer tout simplement d'être plus disponible pour que l'Esprit de Dieu en nous puisse venir et agir. C'est plutôt lâcher, en fait, se détendre, laisser place, ne plus vivre cette tension entre l'extérieur et l'intérieur comme étant un effort dans lequel nous nous épuisons, mais plutôt cultiver notre vie intérieure, l'Évangile en nous, et alors tout naturellement, notre être extérieur en est amélioré. La communauté des sœurs protestantes de Pomerol, près de Tarascon, dans sa règle, a une phrase très très belle que j'ai déjà partagée avec vous. « Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu, et le bien tombera de toi comme le fruit mûr tombe de l'arbre. » Alors tout simplement, puissions-nous chacun laisser résonner en nous l'Évangile jour après jour, le laisser fructifier en nous, le laisser nous rendre bons pour que des hommes bons que nous soyons, nous puissions tirer du bien, du bon trésor que contient alors notre cœur. Amen. Thank you. Nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Je vous invite à tous vous lever et faire cercle autour de cette table. Ceux qui souhaiteront prendre le pain et le vin les prendront quand ils seront distribués. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions, car sans cesse, tu nous accordes ta grâce. Tu nous aimes malgré nos indignités, tu nous sauves de notre incohérence, tu es notre lumière dans l'obscurité, tu es notre paix dans l'adversité, tu es présent dans nos combats. Tu participes à nos souffrances, tu es notre force dans la faiblesse. Nous sommes heureux de te connaître, nous nous réjouissons d'être des tiens, et nous ne saurions vivre sans toi. C'est pourquoi avec tous les croyants d'aujourd'hui et de toujours, avec tous les témoins de la résurrection, nous proclamons ton amour et nous chantons ta gloire. Alléluia. Et nous chantons ensemble, ô prends mon âme. Thank you.